Bonjour à toutes et à tous. Grand plaisir pour moi d'être avec vous encore une fois. Je m'excuse pour Priscilla, qui aime bien venir avec moi, et Eliana. Eliana nous a fait une grosse fièvre là cette nuit, il était plus sage qu'elle reste. C'est pour ça que vous ne l'avez pas entendu derrière cet après-midi. J'étais content aussi de rencontrer Philippe et Damaris. Merci Seigneur pour ce nouveau ministère qui s'ouvre à l'église de Saint-Maur, un ministère attendu, et puis que Dieu encore vous fortifie dans cette formidable dynamique. Donc, je suis très content de pouvoir me joindre à vous sur cette série que vous avez sur la première épître de Jean. Et ce qui est très interpellant, c'est que notre ami Jean, on le connaît comme l'apôtre de l'amour, n'est-ce pas ? Celui qui parle beaucoup d'amour. Mais on sent quand même que dans son épître, il est quand même assez catégorique et tranché. Hein. Si t'aimes pas Dieu, si t'aimes pas ton frère, t'aimes pas Dieu. Tu connais pas Dieu. Donc il est quand même très très tranché. Et c'est vraiment bon de relire cette épître parce que elle confirme, et c'est un peu le contexte pour lequel il écrit. Des gens sont troublés. Est-ce qu'on a vraiment la foi? On nous a remis en cause sur notre foi. Il y a des gens qui étaient avec nous, qui disent des choses qui sont pas toujours vraies. Et l'apôtre Jean, il donne trois tests tout au long de son épître qui reviennent régulièrement et que vous avez déjà commencé à dérouler. Trois tests de la foi. Quelqu'un qui a la foi ne vit pas dans le péché, mais aime l'obéissance. Quelqu'un qui a la foi ne déteste pas son frère, mais aime son prochain, et quelqu'un qui, à la fois, ne reste pas dans l'erreur, notamment sur la personne de Jésus-Christ, mais est dans la vérité. Et on voit cette thématique revenir régulièrement pour encourager les chrétiens, de dire, mais vous connaissez Jésus. Et c'est juste avant les quelques versets précédents, vous avez vaincu le malin, vous connaissez la vérité, vous êtes libérés. Pour encourager les chrétiens et leur rappeler que ce qu'ils sont en train de vivre, c'est vraiment la vie chrétienne, la marche avec Dieu qui se constitue de ces éléments-là. Et ici, il va leur rappeler quelque chose qu'il a déjà commencé à mentionner précédemment, mais qu'il y a des choses qui sont incompatibles. Des choses qu'on ne peut pas garder ensemble parce qu'elles sont de nature tellement opposées. Et c'est vrai dans la vie chrétienne, c'est vrai dans la marche du croyant et dans la marche du non-croyant. Des choses qu'on ne peut pas mélanger, comme l'huile et l'eau. Quand on les mélange, à un moment, on voit bien la distinction entre l'huile et l'eau. Et Jean a le souci de montrer ça. Pour que les chrétiens soient clairs sur ce qu'on peut ou pas laisser dans notre vie, et sur ce que c'est la marche chrétienne et ce qu'elle n'est pas. Et dans ces quelques versets, ce sera justement une de ces thématiques. Et le plan que je vous propose sur ces trois versets, on va tout simplement prendre le plan du texte. Tout d'abord, on va voir l'incompatibilité entre pratique et amour du monde et amour de Dieu et obéissance de Dieu. Des choses incompatibles. Deuxièmement, une définition, une explicitation, une explication de ce qu'est le monde et l'amour du monde. Et troisièmement, on regardera que ces encouragements sont faits dans une perspective d'éternité pour que ce que Dieu propose et ce que le chrétien pratique, c'est parce que c'est des choses éternelles. Alors, Jean ici nous parle vraiment de cette incompatibilité entre l'amour du monde et l'amour du Père. Deux affections qui sont opposées. Et on peut se dire, mais oui, c'est normal, bien sûr, c'est des choses opposées. D'un côté, il y a le monde, de l'autre, il y a le Père. Mais Jean sait que on peut être dans le danger de tolérer deux choses qui sont opposées. Précédemment, déjà, il sera assez catégorique. Il dit, si tu pratiques le péché, tu ne connais pas Dieu. Tu ne peux pas dire que quand tu vis dans le péché, tu es dans la lumière. Regardez le verset, chapitre 1, verset 6, juste avant, Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Il va continuer ensuite au verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Il y a une opposition entre la pratique du péché et l'amour de Dieu. Parce que quand il parle du monde, en fait, dans les écrits de Jean, on pourrait voir quelques éléments. Parfois, il peut parler de l'univers, le monde, l'univers créé. Parfois, il peut parler de la terre sur laquelle nous sommes. Mais d'une façon générale, Jean, lorsqu'il va parler du monde, il va parler de ce système, cet ensemble de pratiques qui est opposé à la volonté de Dieu et à son plan. Donc, c'est avec une connotation plutôt négative, très négative. Le monde, c'est cet espace, ce système qui est opposé à Dieu et qui entraîne les hommes contre Dieu, et donc à pécher. Et ici, il dit, vous ne pouvez pas aimer ce système, ces pratiques, cet environnement, et avoir l'amour du Père. Ce n'est pas possible. Et ça, déjà, c'est quelque chose d'assez tranché pour notre ami Jean, et pour son auditoire, et pour nous aussi aujourd'hui. Jésus lui-même le dira. Il dira, peut-on porter de mauvais fruits sur un bon arbre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Il dira, si le fruit est bon, et dans le cas de Jésus, c'était l'obéissance, c'était l'amour, que vous avez vu aussi la semaine dernière, eh bien, c'est que l'arbre est bon. Mais si le fruit est mauvais, c'est que l'arbre est mauvais. Et donc Jésus, dans son cas particulier, c'était les pharisiens. Des gens hypocrites, des gens orgueilleux. Pour la majorité d'entre eux, pas tous, mais en tout cas beaucoup d'entre eux, mais qui se disaient des gens bien, des gens en communion avec Dieu, des gens qui sont dans le bon chemin. Eh bien Jésus dit non, attention, votre fruit décrit votre cœur. Et pour nous aussi, c'est une bonne alerte. Quel est le fruit que nous portons? Quelles sont les pratiques que nous aimons? Parce que de ces pratiques, l'apôtre Jean dit « Attention, la source peut être bien affectée ou mal affectée. » Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Donc si nous sommes en communion avec Dieu, nous ne pratiquons pas le péché. Notre ami Jacques va aussi reprendre un petit peu cette expression du monde. En Jacques, chapitre 4, et les versets 3 et 4, voilà ce qu'il va dire. « Quand vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu ?» Waouh ! Haine contre Dieu. « Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. » Tout à l'heure, Eliane nous parlait de ses frères qui payent un grand prix, mais qui se maintiennent quand même dans la foi, vous imaginez? Ce serait tellement simple pour eux de dire, bon, en fait, finalement, on n'est pas chrétien, on se cache un petit peu. Comme ça, tout l'extérieur se remet en place. On nous accueille à nouveau, on nous considère à nouveau. Mais parce que ils savent, ces frères et ces sœurs qui ont accepté Jésus-Christ dans des environnements hostiles, que suivre Jésus, c'est changer de monde totalement. C'est changer d'environnement, c'est changer de pratique, d'attitude, en fait, c'est changer de vie. Donc on ne peut plus pratiquer nos anciens comportements. Et pour nous aussi, nous sommes encouragés dans ce sens-là. À voir notre vie comme un changement, en Jésus-Christ, comme un changement total d'environnement. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde, dira Jésus, même si nous sommes dans ce monde. Nous ne sommes pas de celles et ceux qui pratiquent les choses de ce monde, qui tolèrent les choses de ce monde. Nous avons une autre affection. Nous avons l'affection de Dieu, des choses de Dieu. Et nous sommes appelés à nous débarrasser, à nous éloigner, à détester les choses de ce monde. Et c'est très intéressant qu'il utilise le terme « n'aimons pas le monde ». Il ne dit pas juste « ne pratiquez pas les œuvres du monde », n'est-ce pas ? Il ne dit pas juste « soyez obéissants, regardez les règles que Dieu nous a données, pratiquez-les et regardez les règles que le monde donne et éloignez-vous-en ». Il aurait pu le dire et il le dit un petit peu dans quelques-uns de ses passages, mais il parle de l'amour du monde. Il parle de l'affection que ton cœur va avoir pour les choses de ce monde. Il traite le sujet profond de nos motivations qui vont nous amener à pratiquer ou ne pas pratiquer. Ce qu'il veut, Jean, c'est que nous soyons remplis de l'amour du Père plutôt que de l'amour du monde. Encore une fois, rappelons-nous qu'il est en train d'encourager des chrétiens qui sont dans cette dynamique et qui ont déjà reçu l'Esprit de Dieu, qui sont dans cette nouvelle nature. Et donc, il est en train de les encourager vers leur vraie nature. C'est votre nature, c'est ce que vous êtes déjà en Jésus-Christ. Donc, continuez dans ce chemin-là. Et vous n'êtes plus de ce monde, donc éloignez-vous de ces pratiques. Alors, quelles sont-elles, justement ? Il va développer un petit peu ici ce qu'il entend par ce qui est dans le monde. Verset 16. En effet, tout ce qui est dans le monde, donc il aura trois points où on peut voir peut-être un résumé de ce qui est dans le monde. La convoitise qui est dans l'homme, ou la convoitise de la chair dans la version seconde, ou les mauvais désirs dans la version semeur. Deuxième point, la convoitise des yeux. Et troisième point, l'orgueil dû aux richesses ou l'orgueil de la vie dans la version seconde. Trois points qui semblent être les explications de ce que Jean veut qu'on évite. Alors, déjà, le terme convoitise, par nature, il est mauvais. Parce que comment définir la convoitise ? Donc, par exemple, il y a un texte assez interpellant que je trouve intéressant, c'est « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain », par exemple. Ou « Tu ne convoiteras pas le bœuf de ton voisin ». Alors, est-ce qu'on peut dire que la convoitise, c'est le désir ? Je pense que si vous cherchez une voiture et que vous désirez avoir une voiture, c'est pas mauvais en soi, n'est-ce pas ? Je pense que si vous êtes célibataire et que vous rencontrez une personne sympathique, chrétienne, n'est-ce pas, avant tout, et que vous avez un bon échange, positif, et que vous désirez avancer dans le mariage avec elle, ce n'est pas de la convoitise. Parce que sinon, plus personne ne se marie. Ou alors, on revient dans le temps où c'est les parents qui décident, toi, tu es bien, vous vous mariez. D'accord, ouf, j'ai pas convoité. On me l'a imposé, ça va. Non, le désir de quelque chose, ces choses-là sont pas mauvaises en soi. Mais la convoitise serait ce désir, désirer quelque chose que je ne suis pas censé désirer ou auquel je n'ai pas forcément droit devant Dieu. Si je suis célibataire, que le Seigneur a permis, donc l'homme quittera son père et sa mère, donc il y a une certaine indépendance sociale, financière et personnelle, il s'attachera à sa femme, donc voilà, que je commence à avoir un échange sans tomber dans l'immoralité sexuelle, voilà, pas de problème. Par contre, si je suis marié, ou si cette personne-là est mariée, là, tout de suite, le désir que j'ai, peut-être le même que ce frère célibataire, eh bien, devient convoitise. Parce que je ne suis pas censé désirer cette personne-là en fonction soit de sa circonstance, soit de mes circonstances. La même chose pour les biens matériels. Je veux ce que l'autre a. Je ne suis pas censé désirer cela. La deuxième chose que je vois dans la convoitise, Et on le voit un petit peu avec nos ancêtres, Adam et Ève. C'est la notion de se remplir personnellement alors que on aurait dû trouver ça autre part, voire en Dieu. Lorsque Ève a regardé le fruit, elle l'a convoité, elle a vu qu'il était agréable à manger et qu'il ouvrirait la connaissance. Des choses que Dieu voulait lui donner dans une relation avec elle. Et parfois, dans la convoitise, on va chercher des choses qu'on doit d'abord trouver en Dieu, et on voudra les trouver dans des choses extérieures. Certains vont trouver un épanouissement dans le sport, et c'est dans le sport qu'ils voudront s'épanouir et devenir des gens et être importants. Certains vont trouver leur valeur dans leur nouvelle maison, leur belle maison. Et c'est là qu'ils veulent être importants. Et qui vont se dire, je vais enfin être heureux. D'autres, ce sera dans le couple. C'est enfin quand je serai bien marié que... Etc, etc. Je pense que dans la convoitise, il y a cette volonté de remplacer Dieu et ce que Dieu peut nous donner. Et alors, notre ami Jean va nous donner 3 points. Le premier, la convoitise de la chair. Là encore, un terme pas très positif dans la Bible. C'est donc en fonction de certaines traductions, cette nature pécheresse qui est dans l'homme, qui tend vers le péché, qui tend vers la rébellion à Dieu, qui tend vers le mal. Et donc, elle a des convoitises, elle a des désirs mauvais, cette chair en nous, et elle nous pousse, elle nous encourage dans une direction, et n'oubliez pas ce qu'on a vu avant, et elle nous pousse à aimer ces mauvaises choses. Elle nous pousse à prendre plaisir dans ces mauvaises chose. Et c'est Paul qui utilisera aussi le même terme et qui dira en Galates chapitre 5, vraiment interpellant, verset 19, « Les œuvres de la chair ou de la nature humaine, en fonction des traductions, sont évidentes. » Et là, il va donner beaucoup d'exemples des pratiques, des œuvres qu'il va qualifier de résultats de la chair. « Adultère, immoralité sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, même les haines, querelle, jalousie, colère, rivalité, division, secte, envie, ivrognerie, excès de table et choses semblables. » Et ce qu'il commencera en disant, les œuvres de la chair sont évidentes, manifestes. Si vous voyez ça dans la vie de quelqu'un, c'est que c'est la chair qui les conduit et pas l'esprit. C'est ce qu'il dira juste après. Donc soyons sur nos gardes dans les œuvres de la chair parce qu'elles sont associées au monde et elles sont absolument opposées à Dieu. Il utilisera aussi une expression, la convoitise des yeux. Chose que nous voyons, que nous désirons, que nous aspirons à posséder. Et encore une fois, nous avons cette notion de convoitise. Donc c'est quelque chose, un désir que je ne devrais pas avoir. Et dans le matérialisme de notre monde occidental, il y a beaucoup cette convoitise des yeux. Cette volonté de posséder pour paraître. Cette volonté d'avoir pour être quelqu'un ou pour se remplir soi-même. Et bien évidemment, nous ne sommes pas exempts, nous les chrétiens, à ces désirs. Effectivement, c'est le monde qui le pratique, mais puisque la chair en nous peut aussi nous attirer dans ce chemin, soyons-nous aussi prudents à ne pas tomber dans la convoitise des yeux. Voir quelque chose et se dire c'est ça qui va me remplir, c'est ça qui va me permettre d'être quelqu'un ou enfin d'être heureux. Si je ne l'ai pas, je manque tout. Et parfois, certains sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour posséder quelque chose qu'ils pensent être nécessaire pour leur épanouissement personnel. Pourquoi des hommes ont cassé leur carrière, leur ministère, leur couple, leur famille, juste parce qu'ils ont désiré physiquement une autre personne? Pourquoi des personnes ont sacrifier leur temps, leur énergie, leur santé parce qu'ils ont désiré un poste, une position, La convoitise de la chair nous aveugle, la convoitise des yeux, finalement, nous aveugle et nous amène dans un chemin qui nous éloigne de Dieu et du vrai bonheur. Et enfin, il parle de l'orgueil de la vie, l'orgueil dû aux richesses, cette volonté de réussite et de réputation et de gloire personnelle, de se dire « moi, maintenant, je suis quelqu'un parce que j'ai accompli ceci ou parce que je possède cela, parce que, enfin, j'impressionne les autres. » Et encore une fois, nous ne jetons pas la pierre aux autres. Nous voulons être conscients que tout homme et toute femme est plus ou moins fragile à cela. Et dans ce monde, nous voyons que parfois les plus gros péchés et les plus grosses destructions sont motivés par soit une volonté de gagner plus d'argent, soit tomber dans l'immoralité sexuelle, ou soit parce qu'on cherche notre gloire personnelle. Donc il y a vraiment ici, je trouve, un résumé des nombreux travers qui peuvent porter l'humanité tout entière. Et donc pour nous, en tant que chrétiens, c'est une façon aussi de savoir d'où peuvent venir les attaques, n'est-ce pas ? Ou quel type de tentation nous pouvons être exposés. Et en fonction des personnes, hein, évidemment, on n'est pas toutes et tous sensibles aux mêmes choses. On n'est pas toutes et tous aussi fragiles face aux différentes tentations, aux différents péchés. Certains, par exemple, ça va être vraiment le matérialisme. Ça, c'est vraiment leur grande fragilité. Eux, vraiment, c'est un combat pour eux et un défi personnel. Pour d'autres, ce sera la gloire et la réputation. Je veux que les autres me voient comme quelqu'un de bien. C'est un absolu. Et je veux rayonner. Pour d'autres, ce sera l'immoralité sexuelle. Je n'arrive pas à me retenir. C'est difficile pour moi quand je passe face à une affiche ou quand je passe face à quelqu'un qui m'attire physiquement. Donc on est tous et toutes plus ou moins sensibles à quelque chose. Mais rappelons-nous ici, la parole de Dieu nous dit « Attention, ne vous affectionnez pas de ces choses-là. Affectionnez-vous de Dieu. » Parce que c'est incompatible si vous êtes chrétien. Vous ne pouvez pas mettre votre cœur, votre amour dans ces choses-là. Et alors, une des grandes motivations, et on va terminer la troisième partie, pourquoi Paul, pourquoi, on est sur Paul à l'église, c'est pour ça. Pourquoi Jean, l'apôtre Jean, encourage les chrétiens à s'éloigner de cela, à fuir cela? La première, c'est parce que toutes ces choses-là sont futiles et ne tiendront pas le jour du jugement. Elles sont superficielles. Elles ne construisent rien. Bien au contraire, au final, elles détruisent. Toutes ces choses, le matérialisme, l'apparence, l'immoralité sexuelle, l'arrogance, la gloire personnelle, c'est des choses qui sont sur lesquelles on ne peut pas et on ne doit pas construire notre propre vie. Même si le monde construit sa vie dessus, hein, je pense que vous le savez, que ce soit nos collègues, que ce soit le monde, que ce soit la société, la politique, vous retrouverez à peu près ces thématiques qui sont le sujet de conflits, de grèves parfois. C'était les inconnus qui avaient fait un sketch et qui disaient « Alors nous faisons une manifestation pour trois points précis. Le premier, c'est l'augmentation des salaires. Le deuxième, c'est la revalorisation de notre revenu. Et le troisième, c'est l'augmentation de notre pouvoir d'achat. » Bon bref, c'est la même chose, on veut plus d'argent. Parfois, ce qui va pousser les hommes à agir, c'est parce qu'ils veulent plus de ce que leur chair convoite, de ce que leurs yeux convoitent, de ce que leur orgueil les pousse à faire. Et ça, les amis, c'est dangereux parce qu'en fait, c'est le système de ce monde est conduit par cela. L'environnement dans lequel nous sommes est géré et régi par ces lois. Paul, dans Éphésiens, dira « c'est le prince de l'air qui dirige ce monde et les hommes rebelles ». Et donc nous, en tant que chrétiens, bien sûr que c'est un combat. Bien sûr que c'est un grand défi de nous rappeler que ces choses-là sont futiles, parce que tout autour de nous, tout autour de vous, des gens vous disent « non, c'est important ça, non, c'est ça qu'il faut que tu désires ». Et nous, en tant que chrétiens, on va dire « non,
Il y a quelque chose de plus précieux, quelque chose de plus beau, quelque chose de plus merveilleux. C'est l'attachement à Dieu. C'est l'obéissance au Seigneur. Et pourquoi ? Parce que c'est éternel, ça. Ça, ça perdure. Jésus donnera cette histoire qu'on raconte aux enfants, on en fait même un chant. Il y avait deux personnes, un insensé et quelqu'un d'intelligent. Hein, vous connaissez le fou sur le sable a bâti sa maison. Voilà. Ça vient de Jésus. Celui qui écoute ma parole et qui ne la met pas en pratique est comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur du sable. Le vent est arrivé et la maison n'a pas tenu, la ruine de cet homme était grande. Mais celui qui a entendu la parole de Dieu et qui l'a mise en pratique est un homme intelligent qui a fondé sa vie sur du roc, comme un homme qui construit sa maison sur du roc. Et lorsque la tempête est arrivée, elle a perduré. Et c'est ce que Jean veut pour les chrétiens, c'est ce que Paul veut pour les chrétiens, c'est ce que Jésus veut pour l'humanité tout entière, c'est que nous puissions perdurer, construire des choses solides dans notre vie, qui ne sont pas futiles, éphémères, fragiles, mais qu'elles perdurent. Et ce qui perdure, ma parole perdure, ici Jean reprend, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Lorsque nous nous attachons à Jésus-Christ, lorsque nous sommes en lui, eh bien, ce que nous sommes et ce que nous faisons demeure éternellement. Vous vous rappelez de cette parole où Jésus dira « Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Que votre fruit demeure. Mais alors, pour terminer, comment faire pour justement s'attacher à cela en sachant que en nous, il y a une force, une nature pécheresse qui convoite ces mauvaises choses, qui aime ces mauvaises choses et qui s'affectionne de ces mauvaises choses. Soyons convaincus, soyons conscients qu'il y a cela en nous. Parce que si le péché était si horrible et que vous et moi, on détestait tous le péché et qu'on trouve ça trop moche, il n'y aurait plus de problème, n'est-ce pas ? Puisqu'on ne serait pas attiré. Mais pourquoi il y a un problème ? C'est parce que nous sommes attirés par le péché. Nous pensons trouver quelque chose de bon dedans, en tout cas notre chair, pas notre intelligence, mais notre chair. Alors comment faire pour faire face à cela ? Eh bien, reprenons quelques phrases de Jean en demeurant dans son amour. Pour ne pas que notre chair s'affectionne trop des choses de la chair, nous affectionnons-nous de la personne de Dieu. Prenons ce temps avec le Père, qui est lumière. Prenons cette grâce qu'il nous donne dans la personne de Jésus-Christ. Prenons ce temps de nous laisser émerveiller par la personne de Dieu. Alors, nous vivrons et nous recevrons ce que la personne de Dieu est. Renonçons aux choses de la chair, oui, mais remplissons notre cœur des choses de Dieu. Laissons le Seigneur remplir qui nous sommes. Pour ceux qui peut-être cet après-midi ne sont pas encore en Jésus-Christ, nous pouvons nous débarrasser, vous pouvez vous débarrasser des choses mauvaises, mais Jésus dit que si vous ne remplissez pas votre cœur de sa personne, alors il vous manque l'essentiel. Parce que vous retomberez après dans ce que vous êtes en train de fuir. J'aimerais lire et encourager les uns et les autres. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes par rapport au combat contre le péché. Et sachez, je vous encourage, on est toutes et tous dans cet élan, dans ce combat. Jean nous encourage. Vous l'avez vu, je pense, il y a deux ou trois semaines. Chapitre 2, verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. » Et encore avant, il dira, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier et nous pardonner de toute iniquité. » Et donc cet après-midi, je nous encourage, frères et sœurs, à prendre conscience que oui, il y a une incompatibilité totale entre la pratique du péché, l'amour du péché et l'amour du Père. Je vous encourage à identifier cela. La parole de Dieu est claire, elle ne lésine pas sur les mots, elle est précise. Eh bien, à nous maintenant de nous mettre devant elle et de dire, Seigneur, je reconnais que dans tel domaine, j'ai une fragilité. Je peux même avoir une pratique du péché. Et je vous encourage à revenir à celui qui a payé pour nous, Jésus-Christ, qui est devenu victime expiatoire pour nos péchés. Et que cet après-midi, aucun d'entre nous ne reste dans son péché. Aucun d'entre nous ne reste dans l'affection du péché, mais revienne à 100% à Jésus-Christ et dit, Seigneur, je veux me débarrasser de cela et je crois que ton sacrifice est suffisant pour mon pardon. Je vous encourage vraiment à vivre cette vie où nous aimons le Père, où nous demeurons dans l'amour du Père. Et sachez, quoi qu'il arrive, que votre vie et vos œuvres demeureront éternellement. Je vous invite encore à prier, à nous associer vraiment à la parole. Et je vais vraiment donner encore l'opportunité cet après-midi de revenir au Seigneur et de confesser nos péchés. Confesser parfois notre affection de la chair, notre affection des choses de ce monde, et de demander pardon et dire, Seigneur, nous voulons abandonner cela. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle, juste pour nous pardonner et nous purifier de tout mal. Et je vais aussi donner l'opportunité à celles et ceux qui décident de croire et de suivre Jésus-Christ de tout cœur, et de dire, moi, je demeure en Dieu, je demeure en Christ, et je veux que sa parole demeure en moi, eh bien, de décider cet après-midi de faire de Jésus-Christ votre affection première et non pas du monde. Seigneur, merci pour ce privilège, merci pour cette opportunité, merci pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir nous débarrasser du péché, nous débarrasser de la convoitise, nous débarrasser de l'orgueil et nous revêtir de ton amour, nous revêtir de ta grâce, de ton pardon, de ta bonté. Seigneur Jésus, je veux vraiment te remercier pour ce sacrifice qui est possible, qui a été rendu, qui nous rend possible et qui nous permet d'être purs encore et saints cet après-midi. Je te prie que le plus grand nombre aujourd'hui reçoive vraiment la grâce du pardon dans la repentance. Et nous voulons décider aussi, Dieu Tout-Puissant, de nous éloigner de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux, de l'orgueil de la vie, de nous éloigner de tout ce qui peut nous éloigner de toi. Et je te demande aussi de nous permettre de nous rappeler que nous faisons cela parce que nous avons une demeure éternelle qui nous attend en ta présence. Donne la force à chaque frère, chaque sœur, cet après-midi, de s'attacher à toi de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme et de toute sa pensée. Nous voulons penser aussi au frère Tan et à toute sa famille, qu'au milieu des détresses, au milieu des combats, il se rappelle qu'il a l'essentiel, qu'il a Christ, et qu'il a le meilleur attachement. Te demandons de le protéger, toi qui es désormais son défenseur, lui et toutes celles et tous ceux qui souffrent pour leur foi. Et nous voulons nous engager dans un chemin, nous aussi, où on se débarrasse du mal, quel que soit le prix, quel que soit le coût, et on avance avec Jésus-Christ pour sa gloire. En ton nom, Seigneur. Amen.